Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un site à mythe et à légende des environs de Montcuq, connu des gens du village. Il s'agit du Touron et de son rocher marqué de cupules, appelé en occitan l'Uroc de la Saumo del Diable, l'Uroc de la Ipiados de la Saumo del Diable, le roc des traces de sabots de la mule du diable. Le lieu est connu dans la mythologie locale par différentes versions, pour la plupart sans trop d'intérêt. L'une est reprise par l'abbé Morel, curé de Saint-Hilaire de Montcuq, vers 1905, dans son introduction à la vie de la mère Clotilde de la Volvaine. C'est le récit le plus circonstancié, mais il y a un récit beaucoup plus récent qui m'a été transmis un soir d'avril des années 1970 dans la cuisine de Zénobie Larieux, bien connue, ancienne épicière de Montcuq, par une personne née dans les années 1880 et qui avait bien connu les témoins directs des faits. Cette personne, Antoinette Gratignol, encore dans la mémoire des Montcuquois d'un âge certain, était parente des Blaye du Garric et a rencontré un de ses amis, Antonin Castagnier, du château de Malmont ou Marmont, le Mauvais Mont, qui lui a été un témoin direct de faits survenus. D'après les récits d'Antoinette Gratignol, un soir de 11 novembre, fête de la Saint-Martin d'hiver, jour de retour des vivants parmi les morts, mais avant 1914. Je vais donc vous transmettre le récit d'Antoinette Gratignol, mot pour mot, tel qu'elle me l'a dit. Nous étions chez Zénobie Larieux, le soleil descendait un soir d'avril 1970. Voilà ce qu'elle m'a dit. François, ce que je vais te dire, souviens-t'en bien, et parce que tu le transmettras à ton tour plus tard. Voilà ce qui est arrivé. Un soir de novembre d'avant 14, un soir de 11 novembre, Antonin Castagnier descendait du château de Marmont, où il résidait, pour aller à Montcuq voir des cousins. Le soir tombé, le paysage d'alors était totalement dépourvu d'arbres. De la combe du Touron, par où passe le chemin de Marmont à Montcuq, on voyait sans obstacle le cimetière du faubourg Saint-Privat, route de Castelnau, site de la primitive église Saint-Privat, qui avait été dressée à cet endroit jusque sous Louis XIV, jusque vers 1680, où elle a été démolie et transférée au site actuel. Bien, donc Antonin Castagnier prend le chemin qui va de Marmont au Touron et du Touron à Montcuq. Ce chemin est bordé à droite de pierres levées, dressées, un peu comme dans les dessins animés, les écailles de l'échine d'un dragon. Le soir tombe, il arrive à la fourche du chemin et, sans aucunement penser à quoi que ce soit, il n'était pas du tout préparé à ce qu'il allait voir, il rencontre là, sur le rocher, un cavalier noir, vêtu de noir jusqu'au nez, le chapeau rabattu sur les yeux et les yeux rouges phosphorescents. Ce cavalier est monté sur une mule noire. Le cavalier fait un signe, arrête Antonin Castagnier et lui dit en occitan, ce que je vais vous répéter, « Aqui tu, Antoni, el dels Castagnes, que fa platen que t'esperavi, que te boli traire cap als inferns per tous peccats. Te voici Antonin des Castagniers, celui des Castagniers. Cela fait longtemps que je t'attendais, car je veux t'emporter en enfer à cause de tes péchés. » Antonin Castagnier se sent paralysé de frayeur et même physiquement. Il ne peut plus rien bouger, il ne peut plus bouger, il est paralysé. À ce moment-là, il tente de faire un signe de croix, impossible. Mais il entend sonner l'Angélus de l'église primitive du faubourg au cimetière, église disparue depuis plus de 200 ans. Un cri immense déchire le ciel, la mule se cabre, tombe à la renverse en arrière, entraînant avec elle le cavalier, tombe dans un gouffre au pied du rocher qui se referme sur eux. Antonin, saisi de frayeur, revient chez lui, incapable de parler, hurlant, faisant des gestes désordonnés, incapable de s'exprimer. On le met au lit, on fait venir le médecin, le curé de Saint-Brivat, incapable de faire quoi que ce soit. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il n'était pas mourant, incapable de se confesser. Ça a duré pendant 8 jours. 8 jours de hurlements, de gestes désordonnés, incapable de le calmer. On ne pouvait pas le calmer. Ça a disparu, et au bout de 8 ou 15 jours, il a pu revenir à Montcuq. Et à ce moment-là, il rencontre au Faubourg Saint-Privat Antoinette Gratignol, à laquelle il raconte ce qui venait de lui arriver. Tout Montcuq le savait, mais on n'avait pas trop d'explications. Et c'est là qu'il a donné le récit de cette rencontre à Antoinette. Et Antoinette me disait, il devenait blanc comme un linge, comme une béchine, comme une linceole, comme un drap de linge, comme un drap de lit. Et il se mettait à suer des sueurs froides. Antonin était à l'époque relativement jeune. Un an après, jour pour jour, m'a dit Antoinette Gratignol, un de ses proches, Émile Blaye, du Garric, revenant de la foire et fête votive de Castelnau, donc un 11 novembre, ça ne peut pas être une autre date. Le soir, passe par la branche du chemin venant de Jeannès et qui aboutit au Touron et de là permet d'accéder au Garric, chez les Blaye. Il passe par là et au même endroit, le même soir, à la même heure, il fait la même expérience. Émile Blaye était, comme le qualifiait Antoinette Gratignol, un fanatique au sens de 1793, des Jacobins de 1793. C'était un catholique très pratiquant. Antonin était un catholique modéré, disons. Émile Blaye, sous l'effet de la frayeur, rentre chez lui, mais décide de réagir, prend une autre décision. Il va au Touron et dresse sur le rocher une croix de bois qui a disparu depuis. La légende, le récit d'Antoinette s'arrête là. Ça reprend en partie des éléments donnés par des versions très vagues quant aux faits, mais ça a plusieurs éléments intéressants. C'est que si on reprend toutes ces versions, si on les transfère sur une carte, on s'aperçoit que soit le témoin vient d'Écosse vers Montcuq, soit il monte de Montcuq vers l'Écosse. Le lieu de rencontre, c'est toujours le Touron. Dans les versions les plus édulcorées, c'est un Montcuquois qui veut se suicider au Touron, mais on ne nous dit pas comment. Dans certaines versions, on ne donne pas davantage d'explications. Un de mes amis qui était magistrat militaire et qui avait exercé ses fonctions en Afrique, M. Alain Robert de Nougaïret de Haute, à Le Breil, m'a dit ceci, c'est très simple. Quand les témoins sont tous d'accord sur les faits centraux, mais qu'ils divergent, tous opposent sur les circonstances, ça veut dire qu'ils savent tous ce qu'il s'est passé, mais qu'ils ne veulent pas le dire. Or, les familles des environs sont toutes des familles qui voisinent là entre elles depuis au moins 1450-1500. Les Castagniers arrivent du Rouergue, du Mas de la Calçada, le Mas de la Voie romaine entre Rodez et Clermont, en pays de Carlate, d'où viendront les Carlats de Montcuq. Les Castagniers arrivent du Rouergue vers 1450. Ils s'installent comme agriculteurs, d'abord au Mas de Peine, à Saint-Géniès. Ils prennent en main ensuite le Mas du Roc de Faïde, à côté du Touron, puis celui de Gueyrac. Plusieurs frères, donc plusieurs branches collatérales. Ils voisinent avec les Lagenis, les Laitsuanios de Cantegore, avec les Alis du Touron, avec les Châtelaines de Jeannès, descendants de ceux de Peine et de Saint-Géniès, actuellement les Dubois de Gaudusson. Dominique Dubois de Gaudusson, ou son frère aîné Philippe, m'a ajouté une précision qui tient de sa grand-mère, Madame de Fournas. On venait en procession de l'église Saint-Privat, curé en tête avec bannière, croix et tout ce qui s'ensuit, hymnes et cantiques, jusqu'à la croix dressée par Émile Blaye sur le roc du Touron. Les processions ont cessé quand, on n'en sait rien. Bon, alors, le récit est intéressant, pourquoi? D'abord, parce que c'est datable facilement, un soir de 11 novembre. Et Antoinette me disait, elle était née vers 1880, c'était avant 14. Bien. Ensuite, un paysage sans arbres, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Depuis 1950-65, les disparitions des troupeaux de moutons et de chèvres, retour de la végétation arborescente. De nos jours, on ne peut plus voir le cimetière depuis le fond de la commune du Touron. À l'époque, on pouvait. Le récit est intéressant parce que c'est un soir de 11 novembre, et le 11 novembre, avant 14, c'est pas rien, c'est la fête de Saint-Martin d'hiver. Saint-Martin, c'est la commémoration de la mort de Saint-Martin, de sa montée au ciel. Or, c'est aussi, alors dans le calendrier liturgique de l'Église catholique en France, la date de changement d'année liturgique. Pourquoi ? Parce que c'était auparavant, dans le calendrier druidique, gaulois, que l'on connaît bien, une date possible de changement d'année. Le changement d'année se situait à l'automne, entre, disons, les dates clés, c'est le 18 octobre à la Saint-Luc et le 25 novembre à la Sainte-Catherine. Entre les deux se situait le changement d'année. Et le 11 novembre est une date possible, une date de milieu du mois, lunaire, c'est la date où en fait, voilà. dans le calendrier lunaire gaulois à date mobile, mais figé par la tradition chrétienne et par la romanisation sur un calendrier solaire, c'est la date où les morts reviennent parmi les vivants. C'est la date où tout le peuple se rassemblait autour des rois et des druides pour célébrer des rites de communion avec les morts. Or, là, au Touron, on a affaire à un cavalier qui veut entraîner un vivant parmi les morts. Dans d'autres versions, un vivant qui veut entrer chez les morts par un suicide. Un gouffre qui avale les témoins, qui avale les vivants pour les amener dans le monde des morts. Dans les récits racontés par l'abbé Morel et par d'autres témoins, c'est un Montcuquois qui veut se suicider, qui, au Touron, est dissuadé de se suicider par le diable lui-même. En quelque sorte, le diable empêche un Montcuquois catholique de commettre le péché le plus grave. Et celui-ci et ce Montcuquois reviennent chez lui rassérénés et transformés. Dans le cas d'Antonin Castagnier, c'est une transformation radicale. Alors, d'après d'autres versions de la légende, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un lien entre le Touron et la primitive Saint-Privat. L'autre lien, c'est celui avec la date du 11 novembre. Or, le Touron est facilement localisable dans l'espace autour de Montcuq parce que si vous vous mettez devant la porte d'entrée de la tour, si vous vous mettez sur le rocher au pied de la tour, le Touron vous est indiqué dans l'axe au sud-est et c'est, vu de la porte d'accès à la tour, le point où le soleil se lève le matin de la Saint-Martin. Donc c'est bel et bien un lieu en rapport avec la Saint-Martin d'hiver, avec le changement d'année chez les druides, avec la fête de rencontre entre les morts et les vivants. Et c'est assez curieux parce que voyez-vous, d'après mes recherches aux archives départementales, ça fait 20 ans que je les fréquente, dans les registres des notaires de Montcuq, le Touron est cité au XVIIIe siècle, mais c'est un simple rocher, un tertre, sans plus. L'appellation de Roc de la Ipiados de la Saumo del Diable, Roc des traces de sabots de la mule du diable, n'apparaît qu'au XIXe et surtout au XXe siècle. Or, ce rocher était dégagé et les cupules en forme de traces de sabots de mule étaient visibles depuis bien longtemps. On peut se demander qu'est-ce que c'est qui a fait que le mythe s'est inscrit dans le site au fin 19e siècle, entre 1880 et 1914. On a là, si vous voulez, la fabrication, non pas la fabrication, on appelle ça une mythopoïèse ou une mythogénèse, une naissance d'un mythe, qui est favorisée par l'aspect du paysage. Pas d'arbres, du Touron on voit Saint-Privat, le rocher à cupule. Et ce rocher à cupule, le Touron, c'est vu depuis la tour, le point où le soleil se lève, le matin de la Saint-Martin, date clé de changement d'année, de passage des morts parmi les vivants, etc. etc. Ce qu'il y a de plus curieux, dans un acte notarié du XVIIe, XVIIIe siècle, je m'aperçois que descendent du Touron et du Roc de Faille d'à côté, deux petits ruisselets intermittents qui ne coulent vraiment que l'hiver. Les sols sont très fangeux, il y a beaucoup de marécages. Les marécages, c'est toujours en rapport avec le monde des morts, dans cette combe. Du moins en dessous du Touron, parce que la combe du Touron elle-même est très sèche. C'est une vallée sèche. Je m'aperçois que ce petit ruisselet qui descend du Roc de Faille du Touron et qui rejoint la Nègue Vieille, la Nègue Vieille, le ruisseau qui noie la Vieille, la Terre-Mère, au Pont de la Caire, le pont de la Grosse Roche. La Grosse Roche, elle est au pied du Roc de Faille. Ce ruisselet porte un nom curieux, on l'appelle le Rio des Tartuguiers, le ruisseau du Tartuguier. Le Tartuguier, c'est le ruisseau des tortues. Seulement la tortue, la tartugo occitane, c'est d'abord la tartaruca, c'est-à-dire la bête du Tartare, du fleuve des enfers. C'est donc la bête qui sort du fleuve des enfers, et ça fait des ruisseaux en question, des ruisseaux qui sortent des enfers. Ça fait donc de leur source des portes d'accès au monde des morts. Ça fait donc de la source du Roc de Faille et de celle du Touron des portes d'entrée dans le monde des morts. Et la source du Touron se trouve à côté du rocher, au bord du chemin qui va vers Jeannès, ou qui vient de Jeannès. Côté chemin qui vient de Marmont, c'est une ligne de pierres dressées en forme d'écailles d'échines de dragon. Or, j'apprends par différents récits sur le Haut-Quercy, sur les dolmens et menhirs du Haut-Quercy, que dans la région de Rocamadour, très précisément, ancien centre mythique et religieux du Quercy médiéval et peut-être même antique, dans cette région, lorsque, suivant un chemin, on aborde un lieu sacré, marqué par un menhir, un dolmen, peu importe, une légende, à droite du chemin, vous avez toujours une ligne de pierre dressée en forme d'écailles, d'échines de dragon, comme au bord du chemin qui vient de Marmont. Alors notre Antonin Castagnier, donc, était-il au courant du sens de ces pierres dressées? Sa famille est là depuis 500 ans. Le lieu de Marmont, de nos jours, c'était au XIIIe siècle Malomonte, Malmont en occitan, Malmoun en occitan médiéval. Ça veut dire le mauvais mont. À côté, vous avez un lieu dit de Couvinens, sur le gaulois Cowinensis, Cowinos, qui était le surnom d'un dieu gaulois qui se manifestait toujours dans un char de triomphe tiré par des mules noires. Un peu plus loin, vous avez une combe qui s'appelle la Cumbo Peiruso, la combe pierreuse, dans laquelle il y a un chaos rocheux qui portait le nom en latin au XVe siècle de Dunium Debuxeriae, le mont sacré de la buissière, du bois de buis. Et dans ce bois de buis naissait un autre ruisseau qui portait lui aussi le nom de Tartuguier. Plus loin, vous avez un lieu dit Couvignac, toujours pareil, Cowinnos, Cowignacum, le domaine du dieu gaulois qui se manifestait dans un char de triomphe tiré par des mules noires ou chevauchant des mules noires. Et à Couvignac, vous avez une grotte du diable. Or, dans l'interprétation des Montcuquois, le personnage, le cavalier noir monté sur une mule noire rencontré par Antonin Castagnier, c'est le diable. En fait, c'est un vieux dieu gaulois, bien connu, Jesus Mars Cowinnos. Il est figuré un homme jeune, c'est un Apollon Bellenos, un maître des sources, et un maître des sources guérisseuses. Ici, il est plutôt redoutable et dangereux. Alors, ce qui, à l'époque, m'avait paru curieux, c'était ses yeux rouges phosphorescents qui avaient terrifié Antonin Castagnier. Je ne comprenais pas ce que ça, je ne voyais pas. C'est en faisant mes études de droit et d'histoire du droit, sous la direction surtout de Patrick Rébaud, que j'ai compris ce que ça voulait dire. Patrick Rébaud nous l'a expliqué. Dans l'iconographie antique, les mosaïques, les peintures, les statues, etc., qui étaient peintes, les dieux sont toujours figurés avec des yeux rouges phosphorescents. Ça veut donc dire que vers 1880-1914, dans les légendes, dans l'esprit, la culture des Montcuquois de l'époque, on se souvenait encore que des yeux rouges phosphorescents, ça voulait dire quelque chose. Savait-on que ça désigne le personnage comme étant un ancien dieu de la Gaule romaine ou de la Gaule celtique ou même encore plus ancien? Ça, je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est le lien qui est fait avec une église Saint-Privat au cimetière, disparue depuis 200 ans lorsque Antonin Castagnier a vu cette église et a entendu l'Angélus sonner de cette église. Puisque c'est le son de l'Angélus qui a fait que la mule s'est cabrée, est tombée en arrière, est tombée dans le gouffre. Et qu'Antonin Castagnier a pu faire un signe de croix, et à ce moment-là, quand l'Angélus a eu sonné, il a entendu un cri immense qui déchirait le ciel. C'est l'expression même d'Antoinette de Gratignol. Ça veut donc dire, si vous voulez, qu'il y avait un lien entre le Touron et la primitive Saint-Privat. Mais surtout, ça veut dire qu'Antonin Castagnier a fait un flashback de 200 ans en arrière. C'est-à-dire, il a vu une église qui n'existait plus depuis 200 ans. Il a entendu l'Angélus sonner alors que ça ne pouvait plus être le cas. Alors là-dessus, on s'est posé beaucoup de questions, je m'en suis posé moi-même, j'ai contacté mes amis de la Société de mythologie française, notamment Dominique Pauvert, qui est docteur d'État en histoire, agrégé d'histoire. Et bon, en cherchant bien, on s'est aperçu d'abord de plusieurs choses. Le roc en question se trouve à une fourche d'un chemin, c'est un carrefour. On sait que les carrefours, dans l'Antiquité, étaient des lieux propices au contact avec le monde divin céleste ou le monde divin infernal, avec les morts. On s'est aperçu également, bon, c'est le soir du 11 novembre, changement d'année chez les Celtes, une source qui donne naissance à un ruisseau qui, par son nom, sort du monde des morts, sort du monde des enfers. Le gouffre qui avale le cavalier noir, dans lequel des Montcuquois voulaient se suicider, et qui renoncent au suicide et reviennent à Montcuq transformés. Alors Dominique Pauvert m'a dit, c'est très simple, il connaît ce même genre de légende, jusqu'à de sites portant les mêmes noms dans les forêts aux confins du Haut-Quercy et du Périgord. Il m'a dit, ça c'est simple comme un bonjour, ça veut dire que Montcuq, encore au XXe siècle et au Touron, était un lieu qui était le théâtre, le cadre de rites chamaniques, c'est-à-dire de rites de maîtrise des forces de la nature. Et, semble-t-il, soit on a monté une mise en scène pour empêcher Antonin Castagnier de voir ce qu'il ne devait pas voir, soit c'est lui qui voulait être intégré au groupe et qui a été rejeté, refusé. En tout cas, il y a là l'attestation de la perpétuation de ce type de rite. Il y a un autre point de détail qui est plus intéressant peut-être, c'est ce que m'a raconté celle que j'appelle la plus que guérisseuse de Montcuq, Berthe Laporte, dite la d'Espratourno, dont j'ai parlé à propos de Saint-Jean-le-Froid. Un jour, elle me disait, vous n'avez pas remarqué, monsieur Nardou, qu'à Montcuq, il n'y a jamais d'orage de grêle? Je lui dis, si, je vois bien, c'est vrai, ça a la réputation, le village et les environs immédiats n'ont jamais d'orage de grêle. Et elle m'a dit, vous n'êtes jamais demandé pourquoi? Je lui dis, je pense aux prières des religieuses du couvent de la Miséricorde. Oh, elle a fait un petit sourire ironique, l'air de dire, quel imbécile. Est-ce que, d'après tout ce que je peux subodorer, elle savait que, ou elle-même pratiquait-elle les rites en question? C'est pas impossible. Je vais quand même essayer de vous donner quelques explications sans trop vous charger la mémoire. Alors, le nom de Marmont, actuellement, le lieu s'appelait Malmont au Moyen-Âge, Malmoun, Malomonte, le mauvais mont. Le Touron, c'est un peu la même chose, c'est un mot très ancien, alors là aussi c'est du pré-indo-européen. Alors, vous avez la racine Tour, que vous trouvez dans Tourondé, Toroné, Térondé, Térondelle et compagnie, qui désignent partout des lieux de hauteur rocheuse, marqués par des sources, ce que signifie le suffixe « un » en occitan. En gaulois, ça a donné « onna ». Alors « onna », ça veut dire donc, le touron, c'est la source qui coule d'une hauteur rocheuse. Voilà ce que ça veut dire. Le roc de Faille, d'à côté, qui a été un mas pris en main par les castagniers en 1450, après qu'ils aient pris en main celui de Penne à Saint-Géniès. Le roc de Faille dépendait du château du Boss, en haut de la vallée de la Négevieille. Ce qu'il y a d'intéressant au roc de Faille, c'est que vous avez des falaises. Au pied des falaises, une grotte, où naît une source qui a été captée et aménagée. C'est très intéressant à étudier, parce que c'est deux cuves qui se succèdent. De là naît un ruisselet qui rejoint celui du Touron et qui prennent le nom de Tartuguier, le ruisseau des tortues, de la bête qui sort du monde des enfers et compagnie. Bon. Alors, ce qu'il y a d'intéressant au roc de Faille, c'est que vous avez dans l'axe de la grotte un énorme rocher, un mégalithe, une ocaire, qui a donné son nom au Pun de la Caire, sur la Négevieille, en contrebas. Et alors, le plus, ça c'est ce que je n'ai pas pu vous dire tout à l'heure, c'est que Henriette Albert, vieille famille du pays de Montcuq depuis au moins 1450, les lendemains de la guerre de Cent Ans, comme les Castagniers, Henriette Albert a raconté une chose qu'elle a connue étant jeune, dans les années 1910-1920, elle est morte il n'y a pas longtemps, donc c'était dans les années 1920-1930. Il y avait un vieux de Montcuq, éleveur de chèvres, qui, lorsqu'il avait des chèvres trop vieilles, au lieu de les donner à tuer et de manger la chair, il allait les jeter du haut des falaises du roc de Faille pour qu'elles tombent et se tuent en tombant, ou des chiens après allaient dévorer le cadavre. Elle m'avait dit, moi j'avais trouvé ça, j'ai dit tiens, je comprends ce que ça veut dire. Parce que tout le pays de Montcuq est marqué de lieux dits en rapport avec la chèvre, la cabro morto, Saint-Amand de cabre morte, en contrebas de Caminel et de Lebreuil au bord de la Barguelonne, la grotte de la cabre, l'espelugo de la cabro en bon occitan, parce que la grotte en occitan ça se dit espelugo, ça peut aussi se dire cabo, cauno, peu importe, balmo même. La grotte de la chèvre, du côté de la Longagne, par là. Donc, on sait que la chèvre, dans les mythologies et les traditions de peuples qui, pour nous, sont primitifs, mais qui étaient encore le fait de gens du Moyen-Âge, c'est l'animal qui voit au-delà du réel manifesté. Elle voit au-delà de la voûte solaire et elle voit dans le monde des morts. Alors, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose, quelques rites sacrificiels de chèvres encore dans cet endroit du roc de Faille jusqu'aux années 1920? C'est un peu comme les rites chamaniques, hypothèse explicative de la légende du Touron, c'est pas impossible. Bon, je vous ai parlé de Couvinens, Couvignac, bon, le radical c'est Couinnos, qui est l'épithète d'un dieu gaulois qui était en rapport avec le monde des morts et les sources qui remontent d'en bas, puisque bon, je vous l'avais dit à propos du Saint-Jean-le-Froid. Pour nos ancêtres, les sources n'étaient pas le produit de la pluie, mais elles étaient la résurgence des eaux inférieures sur lesquelles flotte le disque plat de la Terre, alors que les pluies étaient déclenchées par l'ouverture de vannes dans le ciel. Et le dieu gaulois en question, Mars Couinnos, Essus, en fait, Essus ça veut dire le bon, mais en fait ça veut dire, c'est sous-entendu le mauvais. On sait que c'est un dieu qui est en rapport lui aussi avec la guerre, avec les morts, avec le monde des morts. Il marque de son empreinte par la toponymie les lieux de Couvinens et de Couvignac, Couinnos, le lieu de Couinnos. À Couvignac, vous avez une grotte du diable, j'en parlerai une autre fois. Il y a encore plus curieux, c'est dans la Cumbo Peyruso, sous le château de Chari, qui a été bâti au lieu dit Malmont le Petit, c'est-à-dire le second mauvais mont. Quand vous avez un endroit qui s'appelle le Petit quelque chose, par rapport à Chari, vous avez un lieu qui s'appelle le Peche Negre, le mont noir. Entre Chari et Gounou et Couvinin, soit une combe, la Cumbo Peyruso, où coule un ruisseau là aussi qui porte lui aussi le nom de Tartuguier, mais il coule juste l'hiver et encore pas tous les ans, et qui rejoint le Grand Tartuguier, donc au Moulin de Chari. Et ce ruisseau naît dans un chaos rocheux qui portait le nom de, en latin, au XVe siècle, Dunium de Buxeriae, c'est-à-dire le mont sacré de la forêt de buis, ce qui est le cas. Hein. La Buissière en occitan. Vous avez donc là tout un tas de noms de lieux qui sont en rapport avec un sacré païen. On pourrait dire la même chose de Cantegore, où habitaient les Laitsuani, c'est les Lajeuni. C'est l'autre forme, elle est bien connue à Sauzet, c'est Laitsaunias, Lasjonias, comme on dit en français, en prononçant mal. Ça veut dire les gens qui sont originaires d'un pays, d'un village sous le patronage, appartenant à une famille dite Jean. Bon. Vous avez là donc tout un tas de plusieurs familles qui sont en rapport les unes avec les autres. Et j'ai parlé aux descendantes actuelles d'Antonin Castagnier et à un de ses arrière-petits-fils. J'ai parlé aux descendantes, jamais Antonin ne leur avait raconté la chose. Il l'avait raconté au Montcuquois de son temps et elle était vraiment très étonnée. Alors le plus curieux, c'est qu'une des descendantes d'Antonin Castagnier vit dans une maison moderne, nouvelle, au pied du roc de Faïd, au débouché de la combe du Touron, où son grand-père, son arrière-grand-père a fait la rencontre terrifiante en question. Bon, les gens du Touron, actuellement, n'en disent pas plus. Alors, quant à Antonin, il a vécu, il est mort à Montcuq, ma mère l'avait connu. Son expérience, c'est assez curieux de voir que ce récit, finalement, n'est connu que par la transmission qui m'en a été faite par Antoinette Gratignol. Personne d'autre ne le connaissait. Ça en est arrivé au point que, pour les gens de Montcuq, ils se réfèrent plutôt à la légende telle qu'elle est donnée par l'abbé Morel dans son introduction à la vie de la mère Clotilde de la Volvaine des années 1905. Il y a quelque chose qui me revient maintenant, c'est que dans la mythologie médiévale, alors ça c'est les ouvrages de Philippe Walter et de Claude Lecouteux qui sont professeurs à la Sorbonne, il y a plusieurs choses qui interviennent. Lorsque le diable, sous la forme d'un dieu du paganisme, se manifeste, on considère qu'il a en quelque sorte ranimé le corps et l'âme d'un défunt, mais d'un défunt par suicide. Au fond, le diable se manifesterait, sous la forme d'un dieu du paganisme, sur un lieu qui a été celui d'un suicide et en réanimant le corps d'un suicidé. Or, au roc du Touron, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'abondance des Rhamnus alaternes, des nerprins, des pommiers de la Ramnonte, des alaternes, qui sont des arbres méditerranéens, communs sur les côtes du Quercy. Et les Rhamnus alaternes, qui ont une mythologie qui nous vient de la Grèce ancienne, sont données pour pousser spontanément sur les tombes de suicidés. Or, justement, il y a des Rhamnus alaternes au bord du rocher, surplombant le gouffre qui, soi-disant, se serait refermé sur le cavalier sombre, et gouffre dans lequel des Montcuquois auraient voulu se jeter pour se suicider. Gouffre dont l'existence, quand vous y allez, il n'y a rien du tout, vous ne risquez pas de tomber dans un gouffre. Et c'est là que Dominique Prouvaire m'a donné son explication. Dans les rites d'initiation au chamanisme, on plonge le candidat dans un état second par l'ingestion de drogues, de produits hallucinogènes, qui lui font croire que son corps tombe dans un gouffre qui ne finit pas, qu'arrivé au fond du gouffre, il est la proie de diables et de démons, de divinités infernales qui le démembrent, le déchirent, le dépècent, le font bouillir, le font cuire, puis ensuite récupère les éléments du corps pour les rassembler et faire un nouveau corps, transformer l'individu qui remonte du gouffre et en ressort transformé, totalement différent de ce qu'il était auparavant. C'est ce que nous disent les versions édulcorées de la légende, où l'abbé Morel et d'autres nous disent « Des Montcuquois veulent se suicider, ils montent au Touron pour se jeter dans le gouffre, mais là, ils rencontrent le diable qui leur explique des choses cachées depuis le commencement du monde, pour reprendre le titre de l'ouvrage de René Girard, et en font des êtres transformés, renouvelés, donc ils accèdent à une connaissance supérieure, une gnose, une connaissance interdite, à laquelle ils ne pouvaient accéder qu'après avoir subi les affres des épreuves initiatiques composant les rites d'accession au chamanisme. C'est l'interprétation de Dominique Prouvaire, je suis tout à fait d'accord, je ne vais pas contester son interprétation. Et donc, on aurait là un site, en quelque sorte, de transformation de l'individu. Au fond, l'individu accéderait à un état supérieur de la conscience et de la connaissance. Il accéderait à une gnose, une connaissance interdite aux communs des mortels et réservée aux êtres supérieurs ou inférieurs, qui serait celle des morts, comme des dieux célestes. Et ça expliquerait pourquoi, chez les Gaulois, chez les Celtes, à certaines dates de l'automne, qui sont des dates de changement d'année, les morts reviennent parmi les vivants et communiquent aux vivants des vérités cachées. Or, ces dates de l'automne, qui sont celles de Toussaint, du 11 novembre, des 12 jours entre Noël et le jour des rois, de la Saint-Hilaire, saint patron de Montcuq, de la Saint-Jean, le solstice d'été, la fête de Saint-Jean-le-Froid, dans ces dates de passage des morts parmi les vivants, de retour des morts parmi les vivants, sont celles de ce qu'on appelle le passage nocturne de la chasse infernale, de la Ménie Hellequin, de la chasse du roi Arthur, qui guide une meute de chiens couronnés d'or au pelage rouge et blanc, meute hurlante qui vient chercher les morts de l'année pour les amener dans le monde des trépassés, où ils entrent par des sources, portes d'accès au monde des morts, vers lesquelles remontent les esprits des morts en suivant les cours d'eau, les rivières, jusqu'aux sources. Ils descendent dans le monde des morts au solstice d'hiver, ils en remontent au solstice d'été. Ils descendent dans le monde des morts au Touron, et en remontent au 11 novembre, et en remontent au solstice d'été à Saint-Jean-le-Froid. Or, ce récit, ce mythe, ce motif mythologique de la chasse du roi Arthur, de la chasse infernale, il est certes fort connu, mais il est sculpté dans l'abside de l'église Saint-Hilaire de Montcuq, au niveau inférieur des colonnettes d'angle engagées qui supportent les arêtes de la voûte, et église sous le patronage d'un saint dont la fête dans la nuit du 13 au 14 janvier est une date possible de passage de la chasse hurlante, de communion des vivants avec les morts. Le saint patron secondaire de Saint-Hilaire de Montcuq, c'est Saint-Martin, 11 novembre. Lui aussi, donc, date possible. Au niveau médian, vous avez de l'abside, vous avez sculpté des masques d'hommes et d'animaux, de chiens, d'ours, de singes et autres. Ça, c'est en rapport avec des rites bien connus, interdits par les conciles et synodes, que devaient célébrer les prêtres et le clergé d'églises, cathédrales notamment, mais aussi d'églises paroissiales, pendant les 12 jours entre Noël et le jour des rois, sous la contrainte exercée par les paroissiens. Des danses rituelles masquées, de peau d'ours et de peau de loup, ou également de peau de cerf. Et ces rites étaient célébrés pendant les 12 jours entre Noël et le jour des rois, jour aussi de passage des morts parmi les vivants. Donc vous auriez là peut-être un lien mythologique, mais logique, dans le mythe, entre le Touron, la primitive Saint-Privat au cimetière, et Saint-Hilaire de Montcuq. Or, Saint-Hilaire de Montcuq succède à une église Saint-Cernin, 29 novembre, autre date possible, qui était située place du Plat au pied de la tour. Donc il se pourrait que le site de Montcuq soit depuis ses origines mythiques vers 250, millénaire de Rome, je vous en parlerai une autre fois, en rapport avec le site du Touron. Ça nous permettrait de dater la formation et l'inscription du mythe du Touron dans le paysage vers 250, millénaire de Rome et fondation mythique de Montcuq. J'espère ne pas vous avoir trop égaré et trop ennuyé. Merci, à bientôt, à la prochaine fois. De la part de François Nardou.